responsable des collections, conservateur des collections Égypte dynastique et gréco-romaine au musée royal d'art et d'histoire. Alors, on va évoquer un personnage important de notre histoire à nous, Jean Capard, le père de l'égyptologie en Belgique, parce qu'il y a un fonds qui vient d'être créé, le fonds Jean Capard, géré par la fondation Rabaudouin. Avant d'évoquer l'une des œuvres majeures de la collection égyptienne du musée du Cinquantenaire, rappelons d'abord qui est Jean Capard, pourquoi est-il si important, parce qu'au fond, père de l'égyptologie en Belgique, ça veut tout dire et n'importe quoi.
Oui, c'est un personnage important. Bon, d'abord, c'est un petit peu un double anniversaire de Jean Capard, puisqu'il est né en 1877 et mort en 47, donc il y a 140 ans de sa naissance, 70 ans de son décès. Et donc, l'objectif de ce fonds, c'est de valoriser l'héritage de Jean Capard, qui est effectivement le fondateur de l'égyptologie en Belgique, parce que je pense qu'après, avant lui, il y avait quelques dilettantes qui s'occupaient d'égyptologie, mais rien de très structuré. Lui, dès son plus jeune âge, il est entré au Musée royal d'art et d'histoire, et c'est vraiment à lui qu'on doit le développement d'égyptologie, le développement de la collection égyptienne, parce que entre le début de sa carrière en 1897 et son décès, la collection égyptienne a été multipliée par plus de 20, donc c'est vraiment un rôle extrêmement moteur. Et Capard était vraiment arrivé de son vivant à faire de Bruxelles presque le centre mondial de l'égyptologie, à partir quasiment de rien. Donc c'est un personnage dont l'aura scientifique a été tout à fait considérable, qui était en plus de son temps quelqu'un de très novateur, qui notamment intervenait beaucoup dans les médias pour promouvoir le musée du Cinquantenaire, pour promouvoir l'égyptologie. Donc c'est un personnage vraiment hors du commun et qui a créé vraiment, dont on ne mesure pas encore aujourd'hui tout à fait l'impact scientifique, c'est un des objectifs du fonds.
Et qui a surfé sur la vague de l'intérêt pour l'Égypte amené par les campagnes de Napoléon, ou bien qui était un précurseur en quelque sorte?
Oui, disons, dans le 19e siècle, il y a effectivement tout un courant d'égyptomanie qui est consécutif aux campagnes de Bonaparte en Égypte. Et puis, Capard va par contre, lui, surfer sur les retombées de la découverte de la tombe de Toutankhamon, notamment en 1922, puisque cette découverte va vraiment lancer une mode égyptisante tout à fait importante un peu partout en Occident. Et c'est aussi grâce à ce phénomène-là qu'il va être capable de développer la collection, mais aussi de créer des institutions comme l'Association égyptologique Reine-Élisabeth, autrefois Fondation égyptologique, qui existe toujours aujourd'hui et qui est vraiment un organe scientifique mondialement reconnu et toujours extrêmement actif.
Le public l'a suivi à cette époque?
Le public l'a suivi et c'est assez difficile à imaginer, mais on se rend compte en examinant la presse de l'époque du nombre de fois que Capard est interviewé, est interrogé, apparaît sous forme parfois même de caricatures ou de photos. Enfin, il est vraiment extrêmement présent dans les médias de l'époque. Il fait des causeries radiophoniques aussi, ce qu'on a souvent oublié. Donc il passe à la radio une espèce de feuilleton comme ça d'histoire de l'égyptologie qu'il fait en radio, et il stimule tout le temps les visiteurs à venir rendre visite à la collection égyptienne du musée.
Cet intérêt pour l'Égypte ancienne, et que l'on mesure ici très régulièrement lorsqu'on fait des émissions, cet intérêt, il n'a cessé de s'affirmer, ou il y a eu des périodes là depuis, donc Jean Capard, où l'Égypte était un peu moins à la...
Non, c'est relativement stable, je dirais. Il y a toujours, il y a un petit peu des vagues et des vogues qui se succèdent, mais en général, l'intérêt pour l'Égypte ancienne ne se dément pas. Et au musée du Cinquantenaire, par exemple, chaque fois qu'on organise un événement relatif à l'Égypte ancienne, comme une grande exposition, par exemple, ce sont des dizaines de milliers de visiteurs qui visitent l'exposition.
Alors, il y a une œuvre majeure de la collection égyptienne, donc du Cinquantenaire, qui a été acquise grâce à Jean Capard, qui est le mastaba de Nefertirtenef.
Nefertirtenef, oui.
Voilà. C'est une chapelle funéraire qui date de la 5e dynastie. On peut resituer cette 5e dynastie.
Alors, la 5e dynastie, oui, d'abord, c'est effectivement une œuvre majeure acquise par Capard, mais c'est une des œuvres majeures acquises par Capard, parce qu'il y en a évidemment beaucoup d'autres, il fallait bien en choisir une. Le mastaba de Nefertirtenef date de la 5e dynastie, on est entre 2500 et 2300 avant notre ère à peu près. C'est la deuxième dynastie de l'Ancien Empire, qui fait suite à la dynastie très célèbre des bâtisseurs des grandes pyramides de Gizeh, la 4e, Khéops, Khéphren, Mykérinos. Ici, à la 5e dynastie, on a toute une série de pharaons qui se font aussi construire des pyramides en Égypte, sur le site de Saqqara, d'Aboussir, etc., qui sont beaucoup moins monumentales que les pyramides de Gizeh. Mais donc on est en plein cœur de l'Ancien Empire, qui est la première grande période d'apogée de l'histoire égyptienne.
Comment Capard acquiert-il cette œuvre monumentale, quand même?
Oui, alors c'est tout un roman. Capard, en fait, avait énormément d'ambition pour le musée du Cinquantenaire, et une de ses ambitions, c'était d'en faire vraiment un grand musée d'égyptologie parmi les autres musées égyptologiques européens. N'hésitez pas à comparer le musée du Cinquantenaire au musée du Louvre, etc. Et donc, un de ses objectifs, c'était d'avoir pour le musée de Bruxelles un mastaba, donc une tombe d'Ancien Empire, analogue à celle qui avait été offerte au musée du Louvre quelques années auparavant par l'Égypte.
C'était d'ailleurs pas rare que l'Égypte l'Égypte offre comme ça des vases.
C'était quand même relativement exceptionnel parce que, en fait, l'Égypte à cette époque-là est dans une situation politique et culturelle un petit peu étrange. C'est un pays qui, en gros, est placé sous protectorat britannique, donc tous les rouages économiques du pays sont gérés par la Grande-Bretagne, mais la politique archéologique est gérée par des Français. Et donc c'est une situation un petit peu compliquée, et la conséquence de ça, c'est que le patrimoine égyptien est encore très souvent pillé à cette époque-là. Et des monuments pillés en Égypte se retrouvent parfois dans les grandes collections occidentales où ils sont rachetés par des grands musées. Alors c'est essentiellement pour éviter ce genre de phénomène que le directeur du service des antiquités de l'époque, Gaston Maspero, va offrir de temps en temps des monuments aussi importants à des musées européens en échange du fait qu'il n'achète plus jamais de monuments sur le marché des antiquités qui encourageraient le pillage du patrimoine égyptien.
Alors on peut essayer de décrire, Luc Delvaux, ce vaste monument.
Alors un mastaba, c'est une espèce de grand massif rectangulaire qui est à peu près plein et dans lequel sont creusés un puits funéraire au fond duquel se trouve bien entendu le sarcophage du défunt. Et puis il y a une petite chapelle funéraire décorée de bas-reliefs qui sont en général des scènes d'offrandes, des scènes religieuses, des scènes de la vie quotidienne. Et c'est cette petite chapelle qui a été retrouvée en Égypte, démontée et remontée au musée du cinquantenaire et qu'on peut visiter aujourd'hui.
C'était l'égyptolomania.
Égyptomanie.
Voilà, ce sera plus simple. Elle était la cause d'une concurrence féroce déjà à l'époque entre les différents musées. Hein.
Oui, elle est à l'origine d'une concurrence féroce. Et quand on examine la correspondance de Capard à l'époque, on voit bien que les négociations qu'il mène. Alors, Capard est quelqu'un qui est d'une obstination mais absolument redoutable. Il a une persuasion insistante comme ça qui finit souvent par porter ses fruits. Mais on sent très bien dans ses relations avec le service des antiquités en Égypte qu'il doit naviguer dans cette espèce de concurrence entre différents musées qui tous naturellement sont à l'affût pour obtenir des monuments importants.
Mais quel est l'intérêt de l'Égypte de laisser partir à l'époque
L'intérêt de l'époque, en tout cas c'est la logique du service des antiquités à l'époque, c'est d'essayer de cette manière-là de conjurer le pillage du patrimoine archéologique. On donne des objets aussi importants en échange d'un engagement formel de ne plus acheter ou en tout cas plus trop sur le marché des antiquités. Alors ça n'a pas du tout porté ses fruits parce que il y a toujours eu des pillages du patrimoine égyptien, et à l'époque la législation égyptienne en plus n'était pas extrêmement claire par rapport aux objets qui pouvaient être exportés, donc ça n'a pas nécessairement porté ses fruits, mais c'était ça en principe les objectifs du service des antiquités de l'Égypte.
Parce qu'en effet, lorsque l'on a la chance de détenir un patrimoine d'une valeur inestimable, le contre-coup c'est que ça coûte cher à entretenir.
Ça coûte très cher à entretenir, et c'était aussi un des objectifs du service des antiquités, c'est justement de mieux centraliser la protection du patrimoine égyptien en ayant des inspecteurs qui soient chargés de la gestion des différents sites. Alors ça coûte évidemment très cher, et dans ce contexte politique un peu complexe qui est celui de l'Égypte à cette époque-là, c'est pas toujours facile de trouver des sources de financement. Donc c'était une des possibilités aussi. Alors Capard d'ailleurs, de manière très insistante, demande qu'on lui offre ce mastaba, ou qu'on lui offre des objets qui seraient en double dans les collections du musée du Caire. Alors évidemment, le service des antiquités, comme les conservateurs du musée, refusent, parce que leur objectif, ils veulent bien éventuellement céder des monuments, mais c'est moyennant rétribution, naturellement.
Aujourd'hui, comment ça se passe avec l'Égypte actuelle ?
Aujourd'hui, de toute manière, depuis les années 70, plus aucune exportation d'objets égyptiens n'est autorisée. Donc aujourd'hui, la loi est tout à fait stricte, ça ne peut plus se faire du tout.
Alors ce qui fascine dans l'Égypte ancienne, bien sûr, Luc Delvaux, c'est le mystère qui en émane. On apprend, on cherche, on révèle de plus en plus. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que ce mystère continue à fasciner le public ?
Ah, mais ça continue à fasciner. Ça continue à fasciner le public comme ça continue à fasciner les égyptologues. Hein. Sinon, il n'y aurait personne qui ferait des études d'égyptologie. Et donc, le travail de conservateur de musée, c'est un petit peu ça tous les jours, puisque dès qu'on ouvre une armoire du musée ou qu'on regarde un objet de près, ben, on s'aperçoit qu'il a des tas de mystères à révéler, des tas de discours à émettre, et des tas d'informations à nous apprendre. Et c'est finalement un type d'enthousiasme qui, je crois, ne passe jamais.
On est dans une période importante pour l'égyptologie. Il y a l'apport de Capard, vous l'avez dit, et puis il y a les 200 ans, c'est ça, du décryptage des hiéroglyphes par Champollion.
C'est ça, 1822. Alors, les années 22 ont l'air d'être des années phares pour l'égyptologie. 1822, c'est le décryptage des hiéroglyphes par Champollion. 1922, la tombe de Toutankhamon. Et 2022, on verra bien.
Eh bien, on prendra rendez-vous. Alors, Luc Delvaux, avec vous, en tous les cas, pour l'heure, on peut se rendre au musée du cinquantenaire, donc pour visiter, enfin pour voir ce
mastaba.
Voilà, ce mastaba.